Nous sommes ici parce que nous avons été rencontrés par le Seigneur. C'est lui qui est la cause de ce que nous sommes en train de vivre ici et maintenant. À lui soit la gloire. Je vous invite à faire quelques lectures, bien sûr. D'abord, une première dans le prophète Jérémie. Et on va lire au chapitre 3, au verset 16. Jérémie, chapitre 3, verset 16. Jérémie a une très grosse influence sur les discours de Jésus et de Paul, notamment, dans le Nouveau Testament. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit le Seigneur, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et on n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône du Seigneur, de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Quand on lit ça, on peut penser à la Pentecôte. Et à la présence à Jérusalem de représentants de tous les pays autour, tout le bassin méditerranéen, et où l'on s'aperçoit que Dieu lui-même vient épouser toutes les langues maternelles. On a entendu parler du parler en langue, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est un signe très fort que quelque chose de nouveau s'est produit. Une alliance nouvelle. D'ailleurs, Jérémie est le premier prophète à avoir annoncé une nouvelle alliance, dans les termes même, un pacte neuf, Berit Hadasha, en breton, en hébreu, pardon. Non, je vois si vous dormez ou pas. Jérémie est le premier, au chapitre 31, verset 31, à avoir annoncé un pacte neuf qui englobera les nations et qui fera éclater les limites étroites de l'ancien culte. Le coffre de l'Alliance était devenu l'objet d'un culte idolâtre. Ce que Jérémie dénonce implicitement au verset 16, « Ils ne scanderont plus le coffre de l'Alliance du Seigneur Dieu. » Comme un slogan. Presque comme un mot magique. On a un exemple dans l'Écriture, dans le premier livre de Samuel, chapitre 4. Il y avait la guerre entre les Philistins et Israël, et les hommes d'Israël avaient été battus. Oh ! Ils se sont mis à réfléchir. Pourquoi on a perdu la guerre ? Ah ! Ça y est, on a trouvé. On avait oublié de prendre avec nous l'Arche de l'Alliance. On avait oublié notre talisman, en fait. Alors, on va faire venir l'Arche. Et c'est tout le grand tralala religieux. Les cris, les louanges, les cris de joie, les Philistins ont entendu ces clameurs et se sont dit, on est fichu. Leur Dieu est un Dieu puissant. Et ils parlent de Dieu au pluriel. Leurs dieux sont des dieux puissants. Ils les ont fait traverser la mer Rouge. Ils sont complètement dans l'erreur, bien sûr. Et ils se disent les uns aux autres, ce n'était pas le cas avant, on est perdu, ça y est. Puis tout d'un coup, il y a une réaction, ils disent, allez, Philistins, soyez des hommes. On les aura. Et ils ont battu le pays de Galles. Pardon. Non, là, je confonds un peu. En fait, le combat s'est de nouveau engagé, l'arche étant présente, et les Israélites ont perdu. Et même l'arche a été prise. Catastrophe. Quand on vient annoncer la nouvelle au prophète et au sacrificateur, il tombe raide mort. Sa belle-fille fait une fausse couche. Enfin, tout va mal. Quelle leçon de théologie. Dieu se défend d'être idolâtré. C'est curieux ça, l'idolâtrie de Dieu. Il ne faut pas confondre les genres. Hein. Les mots du prophète que nous venons de lire sont forts. On ne parlera plus du coffre de l'alliance du Seigneur. Il ne viendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne remarquera pas son absence et on n'en fera pas d'autre. On devrait réfléchir si on est de ceux qui pensent qu'il faut reconstruire le temple de Jérusalem. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais au fond, le coffre de l'Alliance, au cœur du culte ancien, sera dépassé. Dépassé. Quand vous roulez en voiture et que vous êtes dépassé, des fois vous râlez. Hein. Après la témérité de ces jeunes conducteurs, oh, dépassement. Un dépassement. La venue de Jésus, ses paroles et ses gestes, sa mort et sa résurrection accomplissent ce dépassement. L'évangile selon Jean, chapitre 20, au verset 11 à 18, décrit la rencontre du ressuscité avec Marie-Madeleine devant le tombeau. Et les termes utilisés par Jean ne sont pas sans rappeler l'ancien coffre de l'Alliance, justement. Marie se penche pour regarder dans le sépulcre et elle voit deux anges assis, l'un à la tête, l'autre aux pieds, de l'endroit où avait été couché le corps de Jésus. Tiens, tiens. Ça ne vous rappelle pas les deux chérubins sur le propitiatoire dont Dieu avait dit à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Et c'est là que Marie rencontre Jésus, Marie-Madeleine. C'est saisissant cette histoire. Le coffre de l'ancienne alliance est dépassé. Le tombeau de Jésus nous est présenté comme un nouveau propitiatoire. Michel nous a dit tout à l'heure, nous a rappelé que c'était pour couvrir. Le propitiatoire, c'était le couvercle de ce coffre. Et le tombeau de Jésus, vide, devient ce nouveau lieu de rencontre, de présence de Dieu, de présence qui guérit, qui console. Marie pleure comme une madeleine, évidemment, et elle va être consolée. Elle se retourne et voit quelqu'un, elle pense que c'est le jardinier. Elle croit voir Michel. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus n'est plus qu'une chose à ses yeux. Et Jésus n'a qu'un mot à dire. Marie. Vous connaissez la suite. Elle est magnifique. Jésus dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. C'est à mes yeux un des plus beaux passages de l'Évangile. Le Dieu de Jésus-Christ est aussi mon Dieu. Pensez à ça. Le Père de Jésus-Christ, c'est aussi le mien. Alors, vraiment, tout est dépassé. Tout est surpassé. C'est ce que Jésus veut dire à la foule à propos de Jean-Baptiste. Et on va lire un texte maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. les versets 7 à 15. Comme il s'en allait, il s'agit des envoyés de Jean-Baptiste qui avaient été envoyés par Jean-Baptiste vers Jésus pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi ou c'est pas toi? Alors Jésus a manifesté sa puissance en guérissant quelques infirmes, quelques malades, voilà, c'est de l'ordinaire. Allez rapporter, dit à Jean, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors comme ils s'en allaient, ces envoyés, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de la femme ou de femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il y a un dépassement. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé ou assailli avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On n'a pas le temps, là, ce matin, tout de suite, de s'arrêter sur ce verset 12, « Le royaume des cieux assailli avec violence ». Si vous voulez, on en parlera pendant le pique-nique. Voilà. Ça peut occuper entre deux mais. Et puis, en chapitre 12 de Matthieu, on va lire trois versets qui ponctuent, en quelque sorte, ce chapitre 12. D'abord, le verset 6. Je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple, un dépassement. Et au verset 41, les hommes de Ninive se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas, un deuxième dépassement. Et puis la reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération, elle la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Encore un dépassement. Plus grand que le temple, plus grand que le prophète Jonas, plus grand que le roi Salomon. Ça vous dit rien, ça? Ça fait le tour des trois aspects du ministère de Jésus. Il est le temple de Dieu, il est le sacrificateur, souverain, irremplaçable, indépassable, lui. Il est le prophète, la parole faite chair, et il est le grand roi, le roi des rois, plus grand que Salomon. Un dépassement total. Plus grand, plus important, qu'est-ce qui fait cette grandeur? Quelle est la nature de ce dépassement? Eh bien, je pourrais le qualifier d'un seul nom. Ce dépassement, ça s'appelle le royaume de Dieu. Le règne advenu en Jésus. Et Jésus invite les disciples à mesurer leur privilège. Dans Luc chapitre 10, les versets 23-24, je vous les lis. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous, vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Pourquoi ? Parce que ces prophètes, ces rois, n'ont pas vécu au moment de l'accomplissement des promesses, tout simplement. Ils étaient nés trop tôt. Mais quand Jésus vient, eh bien, l'histoire s'accomplit. La fin des siècles s'annonce. Ce n'est pas le coronavirus qui annonce la fin du monde. C'est la venue, les paroles, les gestes, la mort et la résurrection de Jésus qui signifie à notre monde qu'il est dépassé, fini. Le royaume, c'est une relation nouvelle avec Dieu, relation assurée par le Saint-Esprit. Jésus dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais celui qui vient après moi et qui est plus grand que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Comprenons bien cela. Car Jean a baptisé dans l'eau, donc Jean a plongé les personnes qui venaient vers lui dans l'eau du Jourdain. Il les introduit dans un élément liquide symbolique d'une mort, d'une repentance. Mais Jean déclare que celui qui vient après lui, lui, il vous introduira non pas dans de l'eau, mais dans le monde de Dieu, qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le monde de Dieu, où tout devient possible. Et ce possible dépasse toutes nos impossibilités. Cela signifie que Jésus opère la réalité nouvelle du règne de Dieu. Il nous introduit dans la vie de l'Esprit, alors que Jean-Baptiste agissait dans l'ordre des images prophétiques, provisoires. Il n'est pas ici question tout de suite du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Mais c'est ce qui caractérise essentiellement l'œuvre de Jésus. Jésus nous introduit dans la maison du Père, dans le monde de Dieu. Et c'est là que tout est dépassé, que tout est surclassé, tout est abondance de la grâce. Alors j'essaie de passer en revue quelques textes des évangiles sans avoir à les lire. Mais ça vous rappellera, je pense que vous connaissez les évangiles par cœur. Hein. Tout l'évangile témoigne de ce dépassement. D'abord dans les enseignements de Jésus, on l'a vu, il y a ici plus que le temple, plus que le roi Salomon, plus que le prophète Jonas. Il y a aussi l'intervention de Jésus dans le temple. Vous savez, quand il a fait un fouet avec des cordes, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là, Jésus ? Il a dit « ôtez cela d'ici ». Nous mesurons à peine le côté un peu sacrilège du geste de Jésus. Pourquoi Jésus agit-il ainsi ? Ben, ça va s'expliquer juste après. Quand Jésus aperçoit un figuier sans fruit, l'évangile précise que ce n'était pas la saison. Alors là, on ne comprend plus très bien, mais tant pis. Hein. Ce n'était pas la saison des figues. Comme le culte ancien n'est pas la saison fertile. Comprenez-vous ? Le culte ancien est devenu stérile. Au fond, la malédiction qui frappe le figuier vise l'ancien culte. Et que dit Jésus à ce figuier ? Il lui dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Là, il y a un dépassement à l'envers. Que plus personne jamais ne puisse se nourrir de l'ancienne alliance. Ah. Il y a aussi l'idée du dépassement dans tous les signes que Jésus accomplit. La multiplication des pains, 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ah ! Il y a la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Tout craque. Les filets, les barques, l'apôtre Pierre qui s'écroule au pied de Jésus et qui lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur, pas pêcheur de poissons cette fois-ci. Hein » Retire-toi de moi. Il a... Tout d'un coup, il a pris conscience de quelque chose. Qui est-il celui-là qui vient remplir ses filets par sa seule parole ? Les noces de Cana. Ils n'ont plus de vin, dit Marie. Et elle force un peu la main à Jésus, qui est obligé de dire, ben, écoutez, remplissez d'eau ces vases. Et voilà, 4 hectolitres, 400 litres d'un vin nouveau et supérieur. Tout est dépassement dans cette histoire. Le vin de la noce, supérieur, surabondant. 400 litres dans une noce déjà grise. Ben, je l'ai déjà dit ça. La tempête apaisée. Dépassés par les événements, les disciples demandent « Mais qui est-il celui-ci qui commande même au vent et à la mer ?» Et ils lui obéissent. Et je pourrais passer toutes les guérisons, les délivrances, les résurrections opérées par Jésus, tout, absolument tout, dans les évangiles, nous dit ce dépassement, cette intervention miséricordieuse de Dieu dans l'histoire. Cela ne veut pas dire que les Écritures sont dépassées, abolies. Jésus l'a bien dit dans Matthieu 5, le fameux sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu dissoudre la loi et les prophètes, mais je suis venu les abonder. Je ne suis pas venu supprimer un seul iota, une seule barre au T, un seul point sur les i de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Non, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est-à-dire qu'il y a aussi là l'idée d'un dépassement de la compréhension de Dieu. Il ne faut pas suivre Marcion, qui préconisait d'abandonner toute référence à l'Ancien Testament dans les évangiles. Marcion qui disait « Oh, tout ça, c'est dépassé ». Oui, d'une certaine manière, oui. Mais les Écritures restent quand même présentes dans l'esprit de Jésus. Je vais utiliser une image. Au lever du soleil, les astres qui ont éclairé la nuit ne sont plus visibles, car leur clarté est éclipsée par la lumière du soleil, n'est-ce pas ? Ces astres cessent-ils pour autant d'exister ? Non, ils sont toujours là. Mais leur lumière est dépassée, surclassée. C'est l'expérience des mages venus d'Orient à Bethléem. Nous avons vu son étoile en Orient. Ils avaient le nez en l'air. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem. Mais le texte nous dit, ils s'en retournèrent par un autre chemin. Dieu avait condamné l'astrologie dans la loi. Or, ce sont des astrologues qui, observant les étoiles, viennent adorer Jésus, le Fils de Dieu. Mais voilà, ils s'en retournent par un autre chemin. Oui, par Jésus-Christ, la véritable lumière est venue dans le monde. Et il faut la préférer aux ténèbres. L'Évangile nous dit justement au contraire que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais Jésus est la lumière du monde qui fait pâlir toutes les gloires de ce monde. que ce soit des gloires religieuses, scientifiques, politiques, sociales, Jésus éclipse. Il dépasse tout ce que le monde peut nous offrir, nous proposer d'excellence, de grandeur, de force et de puissance. Dans toutes ses lettres aux églises, le grand combat de l'apôtre Paul est mené au nom de l'excellence, de la surexcellence de l'Évangile, qui est mis au-dessus de toute pensée, que ce soit à Rome, à Athènes ou à Jérusalem. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, les versets 1 à 10, nous lisons, là je transcris librement et j'abrège un peu, « Je veux en effet que vous sachiez quel rude combat je mène pour que vous accédiez à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Et plus loin, il dit « En lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. » Alléluia. Nous sommes privilégiés. Si je pratiquais l'understatement, je dirais, nous avons de la chance. L'apôtre lutte contre toute tentation de retourner en arrière vers la loi, mais aussi contre toute tentation de retourner vers les superstitions du monde païen. La lettre aux Galates est un sommet dans ce combat. Que reproche-t-il aux Galates ? Ben de se laisser ramener en arrière. Vous observez les jours, les mois, les années. Mais tout ça s'est dépassé. Tout cet arsenal religieux ne sert plus à rien. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors que personne ne vous juge. N'acceptez pas d'être ramené en arrière. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, une vaine tromperie, par l'habileté des hommes à tromper, à séduire. Libérez. C'est la reine des neiges, hein ? Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Libérés de toutes ces chaînes, de toutes ces conditions, de ces a priori. Dieu m'a accueilli, Dieu vous accueille, Dieu t'accueille tel que tu es. Et il trouve son plaisir en toi. La preuve, c'est qu'il te donne son Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce dépassement peut nous dire aujourd'hui ? Ah, bonne question. Comment ce dépassement de la bonne nouvelle peut-il nous opérer dans notre existence ? Et quelles pourraient en être les retombées dans le monde ? Plus ça va, plus je me rends compte que le monde est vraiment ringard. C'est le monde qui est ringard, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'Évangile. Toute la religiosité humaine, et Dieu sait combien cette religiosité est partant. Hier, j'écoutais à la radio le rapport d'une épreuve de relais féminin. En l'espace de quelques secondes, la journaliste a utilisé des termes religieux. C'était un calvaire, c'était... Alors, la Bérézina, ce n'est pas biblique. Mais enfin, elle a parlé de Bérézina. Qu'est-ce qu'elle a dit encore ? Un chemin de croix, je ne sais plus quoi. Enfin, le langage sportif est très religieux, vous savez. Un tel a crucifié le gardien. Bon. Quelles pourraient être les retombées du dépassement de l'Évangile dans notre action, dans notre présence? Eh bien, d'abord par la conscience très claire pour nous qu'il n'y a plus d'étrangers. Ou alors nous le sommes tous. Il n'y a plus de demandeurs d'asile, car nous le sommes tous. Nous sommes tous des demandeurs d'asile. Vous ne croyez pas ? Je vous laisse comprendre de quel côté nos combats, nos engagements doivent être au nom de ce dépassement. Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec aux yeux de Dieu, ni esclave ni libre, ni l'homme ni la femme, Galates chapitre 3, c'est ce célébrissime texte. Alors que notre monde est aujourd'hui dans le combat pour l'égalité homme-femme, mais ils ont des siècles de retard, n'est-ce pas? Comment ce dépassement de l'Évangile opère-t-il dans notre vie? En nous donnant une autre vision du monde et en nous permettant des actions qui incarneront cette bonne nouvelle aux yeux de nos contemporains. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres belles, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, notre monde est dépassé ainsi, et nous devons être non pas à la queue de l'éducation et de, comment dirais-je, de la société. L'Église est en tête. Elle précède la création. Cette création qui soupire et qui gémit aujourd'hui, l'Église est en avance sur elle. L'Église est les prémices de la création nouvelle. Voilà ce que je crois. Nous ne sommes pas à la traîne. Nous avons des millénaires d'avance. Je ne sais pas si nous en rendons compte vraiment. Nous sommes parfois culpabilisés. Nous tremblons même parfois en nous disant « Oh, comme va la société ?» Et là, si nous, on commence à militer ou à confesser nos convictions, on va passer un sale quart d'heure. Ben oui, c'est pas nouveau, hein. Toute la religiosité humaine se trouve dépassée. La vision d'Ésaïe 6, verset 1er, j'aime bien ce verset, donne une image remarquable du dépassement divin de toute entreprise religieuse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bas de son vêtement remplissait le temple. Les pans de sa robe, le bas de son vêtement suffit à remplir le temple. Dieu ne peut pas être contenu dans un édifice. Ça, les prophètes l'avaient dit il y a longtemps. Il n'y a plus d'autre médiation que celle de Jésus lui-même. Il n'y a plus à redouter une entité spirituelle, angélique ou autre. Seule demeure la crainte de notre Seigneur. Il n'y a plus de précautions religieuses, alimentaires, vestimentaires ou temporelles à observer pour plaire à Dieu. Il n'y a plus de discrimination entre l'homme et la femme, entre rang social ou ethnique. Tout est dépassé, tout est déclassé, second et avant-dernier. Seul Jésus déclare, « Moi, je suis le premier et le dernier. » Voilà, tout le reste est second et avant-dernier. Tout est entre parenthèses, dans l'attente de l'éclat glorieux de la venue du royaume. Donc les retombées de ce dépassement dans notre vie aujourd'hui, ce sont des choix, des décisions, des comportements marqués par une vision large, fraternelle, par l'amour et le service du prochain, par la persévérance à se référer sans cesse à l'Évangile. Il suffit de lire les exhortations des Épîtres pour en avoir la démonstration. Tout ce qui fait et tout ce qui définit la justice du royaume, dont parle Matthieu dans le Sermon sur la montagne, Il le conclut en disant, oui, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai presque envie de dire, c'est que vous n'y êtes pas entré encore. Dépassement. Je termine. Une seule chose est indépassable. Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains, Michel en a parlé au début. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire et l'honneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole et que par ton esprit tu viennes sceller en nous ces convictions, cette joie, cette liberté, cet amour débordant. Remplis ton Église, ton peuple et chacun de tes enfants de l'esprit de l'Évangile. Et qu'aussi l'action du Saint-Esprit se déploie dans toute sa grandeur. Viens, oui, viens dépasser nos langages, viens dépasser nos révélations, viens dépasser nos impuissances, nos pauvretés, nos misères. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.
Est-ce que je peux demander à Dalila et Tiana un coup de main pour le partage du pain et du vin ?